Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
L'entreprise de notre invité a vu sur le stade à Biana. Et c'est logique, parce que quelque part, on y fabrique des balles, mais de toutes petites balles. Le hall principal de MPS, Micro Précision System, s'est épuré, mais élégant. Mon invité ce soir m'y accueille et me demande si je veux visiter. J'hésite, je ne veux pas lui faire perdre de temps. Elle insiste, parce que c'est important de savoir de quoi on parle avant de discuter. C'est donc parti, avec un membre de la direction comme guide. On fait le tour, et ce n'est pas sans fierté qu'on m'expose les hauts faits de l'entreprise. Des millions de billes produites par année, un roulement qui est allé sur la Lune dans la mission Apollo pour le système de ventilation des combinaisons des astronautes et une obsession, la qualité. Je retrouve ensuite notre invitée, souriante, à l'écoute. Elle sait par moments prendre le temps de la réflexion, comme quand je lui demande la première fois qu'elle a songé à devenir entrepreneur. Mais quand elle répond, elle a ce léger accent québécois, un accent qui était si fort que quand elle a repris l'entreprise il y a 13 ans, personne n'a compris ce qu'elle a dit lors de son premier discours. Mais les employés ont senti l'énergie, la volonté de prendre des risques. Oui, notre invitée se décrit comme une aventurière avant d'être entrepreneur. Elle voulait découvrir le vaste monde et son regard s'allume quand elle décrit certains roulements d'horlogerie qui sont, selon ses mots, complètement cinglés. Extrait d'un livre qu'elle cite volontiers, « Tu seras ambassadeur de France, c'est ta mère qui te le dit ». Tout de même, il y a une chose qui m'intrigue un peu. Pourquoi ne m'avait-elle pas fait président de la République pendant qu'elle y était ? C'est tiré de la promesse de l'aube, de Romain Gary, et c'est un peu à l'image du parcours de notre invité, un peu cinglé aussi. Bonsoir Nicolas Thibaudeau.
Bonsoir.
Vous dirigez MPS depuis 2003, on va revenir avec vous sur l'histoire de cette entreprise, ce qu'elle produit, les défis qu'elle affronte. Avant ça, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes québécoise d'origine, quels souvenirs vous gardez de votre enfance outre-Atlantique ?
Une belle enfance dans une famille avec plein de choses. On s'amusait avec pas grand-chose, hein, mais on pouvait s'amuser avec un bâton de bois au bord de l'eau, avec les grenouilles. Tout naturellement, comme je pense beaucoup de monde ici, mais surtout dans une grande famille avec beaucoup de frères et sœurs.
Vous étiez 11 enfants dans la famille. Vous avez aussi des parents qui ont un parcours hors norme, un père juriste devenu artiste, votre mère a repris des études de criminologie. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents ?
Je pense que si je vais résumer, ils m'ont appris qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire.
Oui, ça c'est ce que vous gardez aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Vous faites d'ailleurs dans votre vie, vous avez des passions, vous faites du parachutisme par exemple. Cette envie d'aventure, c'est quelque chose qui vous anime encore aujourd'hui ?
Oui, de faire des choses qui me plaisent, qui sont dans la nature, qui sont pas se limiter. Ça pas besoin de tout le temps faire des grandes choses, mais faire les choses qu'on veut faire.
Vous arrivez à faire d'autres choses que le travail, vous dirigez quand même une grande entreprise, le temps est là?
Oui, je prends le temps d'aller dans la nature, marcher, faire du ski.
Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée en Suisse?
Ah oui, je m'en souviens. Oui. Déjà, il faisait beaucoup moins froid qu'au Québec, je suis arrivée le 3 janvier, j'avais l'impression d'être au mois d'octobre.
En plein été, hein, quand même pas.
Ouais. Je me souviens parce que je suis arrivée à la Chaux-de-Fonds, j'étais venue par affaire, puis il n'y avait personne dans les rues. Puis je me suis dit, oh, il doit y avoir une grosse partie de hockey ce soir. Il n'y a personne dans les rues.
Mais le hockey existe à la Chaux-de-Fonds, mais peut-être pas autant qu'au Québec. C'est peut-être pas aussi populaire.
Maintenant, je ne sais pas. Ça a quand même pris pas mal.
Oui. Vous n'avez pas toujours été entrepreneur. Hein. Vous travailliez pour IBM à l'époque. On disait que personne ne quittait jamais IBM. Vous avez quitté IBM. Pourquoi?
Bon, c'est vrai que chez IBM, c'est un endroit, une formation incroyable, surtout en management, puis les valeurs étaient extraordinaires. 350 ou 300 000 employés. Mais à cette époque-là, il faut s'imaginer, c'était en 89, moi comme ingénieur et mon copain, on se disait, mais tout se passe en Europe, bien que les Suisses, ils s'imaginaient que tout se passe à Silicon Valley. Mais nous, on parlait de peut-être un espace économique européen, peut-être une monnaie unique. On se disait, mais si on trouve quelque chose, on fait le pas, puis on y va.
C'est-à-dire que l'Europe semblait être l'Eldorado où tout était possible, c'est ça que vous dites?
Peut-être pas l'Eldorado, mais l'endroit où il y a des choses qui se passent. Ouais. Où des choses vont bouger, où il y aura des nouveautés. Et ça, c'était vraiment excitant comme une aventure.
30 ans plus tard, l'espace européen a tenu ses promesses?
Ah, voilà, ça c'est une autre aventure. Mais il y a quand même eu du chemin de fait.
Oui. Aujourd'hui, donc, vous dirigez maintenant depuis 13 ans l'entreprise. L'horlogerie, le décolletage, ce n'est pas forcément un milieu où on trouve beaucoup de femmes dirigeantes. Comment vous l'expliquez, ça, d'ailleurs ?
Je dirais dans la mécanique, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout en Suisse. Il y en a peut-être un peu plus au Québec. Bon, dans ma classe, à l'école polytechnique, sur 100 personnes, il y avait 3 filles. Alors que le taux de femmes dans le domaine d'ingénierie est peut-être à 25 % maintenant. Je pense que c'est une question de ce que nos modèles, ce qu'on reçoit comme modèle quand on est petit, ce qu'on nous donne comme image ou comme proposition de carrière. Ben, si on nous donne comme proposition de carrière infirmière ou enseignante, ben, on va plutôt aller dans ces domaines-là.
C'est culturel.
Je pense que c'est culturel, oui.
Et vous voyez l'évolution aller dans le bon sens. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font pour tester d'autres métiers. Les métiers n'ont pas de sexe. Vous avez l'impression que ça va dans le bon sens, que cette discrimination à la base va disparaître?
Ah oui, ça bouge. C'est juste incroyable. Je vous dis, moi, dans 25 ans, ce sera presque la parité. Ça bouge. Et dès qu'il y a une mixité, les gens l'apprécient tellement que ça crée un mouvement dans ce sens-là.
En tant que femme dirigeante, vous vous êtes déjà sentie, entre guillemets, discriminée ou qu'on ne vous prenait pas au sérieux, ça arrivait? Vous avez eu des remarques dans ce genre-là ou pas du tout?
Bon, peut-être qu'on ne m'a pas pris au sérieux, ça se peut, mais peut-être que je n'étais pas sérieuse à ce moment-là. Non, je n'ai jamais senti que j'étais discriminée parce qu'on a toujours essayé de construire sur des petits succès qui font d'autres succès. Puis je pense qu'on soit un homme ou une femme, c'est en montrant un peu qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les étapes les unes après les autres. C'est pas à ce sens-là que la difficulté allait. La difficulté d'une femme dans un milieu masculin, c'est plus, par exemple, si on va partir en voyage, toute une équipe, ben voilà, on est une femme avec plein d'hommes, puis quand eux, ils racontent leur voyage d'affaires avec leur famille, tout à coup, il y a des questions qui se posent, donc il faut vraiment faire attention, mettre assez de distance comme ça.
Parlons un peu maintenant de votre entreprise, MPS. Avant de s'appeler MPS, d'ailleurs, l'entreprise se nommait RMB, Roulement Miniature Bienne. Elle a été fondée en 1936, le changement de nom a eu lieu en 2003, votre arrivée aussi. Quelle était la situation de l'entreprise à ce moment-là?
RMB, ça a été vraiment un fleuron. Hein. On a dit tantôt, les combinaisons extravéhiculaires étaient munies de roulements à billes.
Sur la Lune.
Ouais. Et il y a eu une croissance, mais après, dans les années 90, il y a eu des options stratégiques qui ont été prises, qui n'étaient peut-être pas idéales, qui ont fait que de 500-600 personnes à Bienne seulement, on était, moi quand je suis arrivé en 2003, il y avait eu pas mal de licenciements l'année précédente, on était plus que 95 à Bienne, 35 à Bonfol, avec une difficulté vraiment à remonter la pente, fait qu'il fallait vraiment en faire vite.
Quelles ont été du coup vos premières décisions quand on est comme ça face à l'urgence et qu'on reprend quelque chose presque à zéro?
Bon, la première décision, c'était vraiment de faire l'état de la situation, des compétences, de vraiment voir que les bases sont solides, de refaire un esprit d'équipe, puisqu'on a bien vu que derrière, il y avait vraiment un savoir-faire. Puis après, choisir qu'est-ce qu'on garde puis qu'est-ce qu'on ne garde pas, sur quoi il faut miser, quels sont les marchés. Puis après, on a eu beaucoup de chance.
Donc là, l'objectif, c'est de trouver les forces plutôt que de chercher à pallier les faiblesses, c'est ça?
Il faut construire sur des forces, parce que si on ne fait que pallier les faiblesses, on oublie tout ce qu'on a de fort.
Oui. L'esprit d'équipe, comment on s'y prend pour le... Ce n'est pas quelque chose qui se voit ou qui se fait devant un ordinateur. Comment on s'y prend pour remettre un esprit d'équipe positif dans une entreprise?
Bon, je pense que l'idéal, c'est d'avoir créé ensemble des succès, ce qui fait qu'on se dit, ben, tiens, on est une bonne équipe. Après, de faire comprendre à chaque personne que ça prend toutes sortes de monde pour faire une équipe. Ça en prend qui sont introvertis, basés sur l'analytique. Ça en prend d'autres qui sont un peu fous, un peu plus innovateurs, puis d'autres qui reprennent par la suite. Puis ça se fait en faisant des projets, puis en faisant des équipes. Donc, on a vraiment transformé la structure de management de l'entreprise. On est beaucoup plus horizontal, beaucoup plus distribué, les responsabilités sont beaucoup plus distribuées.
Il y a un déménagement qui a eu lieu aussi dans les nouveaux locaux à Bienne, un déménagement que vous avez minutieusement préparé. Qu'est-ce que vous avez fait avant de changer de locaux?
On parle du déménagement de l'ancienne usine.
Exactement.
En 2008, qui est quand même, c'est une grosse usine, hein, c'est 14 400 m². On ne peut pas faire le déménagement comme ça. Mmh. Le déménagement, c'est toute une question de préparation. que ce soit en privé ou en entreprise. Mais on s'imagine une entreprise depuis 1936, on n'était pas dans les locaux depuis un peu moins, mais c'est énorme. Donc, ça a été, on a pris déjà un étudiant de l'EPFL qui a fait un master sur tout le projet de déménagement. Et puis après, on a planifié vraiment toutes les étapes en mesurant toutes les pièces refaire. Puis après, on a pris un consultant qui nous a fait le flux idéal, puis avec les équipes. On a un peu analysé quel était le flux idéal de production pour éliminer la perte par des transferts de produits. Ce qui a fait qu'on savait quel était le flux idéal.
Le chemin que devait prendre la production, en fait, c'est ça?
Le chemin que devait prendre la production, puis éliminer, peut-être mettre des stocks à certains endroits. Il y a vraiment tout plein de petites astuces qui nous permettent d'avoir vraiment un flux optimum.
Et ça valait la peine?
Ah, ça valait la peine parce que ça s'est fait. Ben, on a commencé à déménager le 2 février. Puis j'ai une image, on est le 5 février, puis on a la première pièce qui est produite. Puis après, on déménageait machine par machine. Bon, le dernier étage, il n'y avait pas encore le toit. Puis le premier étage, en fait, c'était déjà la production.
Sur votre logo et un peu partout dans l'entreprise, on peut voir des billes, un produit emblématique de la société. Nadia Chmirou aimait bien jouer aux billes quand elle était plus jeune. Elle s'est donc rendue chez vous. Elle a rencontré votre responsable fabrication. On les retrouve là où les billes sont fabriquées, de la découpe au tri final.
Sortie de boîte.
Si vous voulez, on peut aller près d'une machine. Comme ça, on entend un peu plus les différents bruits de la machine, les axes qui bougent. Ça vous intéresse ?
On y va.
Je suis Manuel Nercide, responsable fabrication chez MPS. Donc ici, on est dans le département de tronçonnage des billes. Et on va justement prendre le fil et faire des petits tronçons avec. Donc on a devant nous une presse qui est capable de tronçonner le fil à une cadence très rapide. Mais c'est également très bruyant, c'est la raison pour laquelle on l'a mis dans ce local séparé. Là c'est très bruyant.
Et là c'est quoi ?
Bonjour. Donc ici on est dans le local de roulage, c'est l'endroit où on commence à fabriquer nos billes. Donc c'est une des premières opérations pour la fabrication des billes, où en fait on va prendre nos tronçons de matière et commencer à former une bille, donc la forme sphérique de la bille. On a actuellement ici 5 machines qui tournent, et tout ce qu'on entend en fait c'est justement le bruit des meules qui travaillent sur nos tronçons de matière et qui sont en train de commencer à former les billes. Alors en fait, ce qu'on est en train de réaliser, c'est un peu de suivre le flux des pièces, le flux standard des pièces de production. C'est clair qu'il y a des différences d'une pièce à l'autre ou d'un produit à l'autre. Par contre, le flux général, c'est quand même ça. C'est qu'on va partir d'une barre de matière brute, on va faire une première opération de tournage ou de décolletage, et on va terminer les pièces en rectification, justement pour obtenir la précision sur les composants. Donc ici, on se situe dans le département de contrôle des billes, devant une machine de tri. On va pouvoir trier une série de billes. Donc actuellement, on est en train de trier une série d'1 million de billes de diamètre 0,9. Donc les billes sont amenées dans la partie de chargement, soit via ce système qu'on a devant nous, soit par bol vibrant. Et ensuite, elles vont passer à travers ces deux rouleaux qui sont ajustés de manière à justement trier les billes selon leur diamètre. Donc on va retrouver en dessous des boîtes, différents compartiments. Et puis, ça nous permet justement de trier les billes en fonction de leur calibre ou en fonction des défauts qu'on peut avoir sur les billes. Alors je vais vous montrer la vitrine. Voilà un échantillon de ce qu'on produit au niveau des billes. Donc on va retrouver au début du procédé du fil pour les billes inox, qu'on va ensuite tronçonner en petits tronçons cylindriques. Et à partir de là, on va commencer à réaliser des billes de différents diamètres.
C'est de la poudre.
C'est de la poudre, c'est du sable. Par contre, c'est du sable qui est très précis.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de marin avec celle qui dirige MPS, Nicolas Thibaudeau. Du sable très précis, et comment ? Parce qu'en visitant moi-même l'entreprise, on m'a dit que parfois on parle de vous comme des pinailleurs de microns. Un exemple, sur une bille, on a une tolérance de 0,08 microns. Si j'ai bien compris, vous prenez un cheveu, vous le coupez en 50, puis vous le coupez encore en 100, et ça donne à peu près une idée de la taille. Ça sert à quoi de faire aussi petit ? C'est utile à qui ?
Alors, MPS, c'est vraiment dans la miniaturisation. Donc, c'est clair, quand on veut monter ou assembler un dispositif qui est dans le corps humain, on veut qu'il soit le plus petit possible. Que ce soit dans le corps humain ou, par exemple, sur un télescope où il va y avoir 2 000, 3 000 positionneurs, il faut que ce soit le plus petit possible, le plus léger possible. Il y a d'autres encore caractéristiques. Des fois, ça doit être à magnétique. C'est la même chose dans une montre.
Concrètement, ces billes, on parle du médical, mais on les retrouve dans quel objet au quotidien dans des montres?
Alors, si vous regardez autour de vous, à peu près tout ce qui tourne à une certaine vitesse a un roulement à billes, hein, dans un vélo, dans une route. Dans le petit, dans les montres, par exemple, il y a, dans toutes les montres automatiques, le rotor a besoin d'un roulement à billes pour supporter la charge. Sinon, il y aurait trop de friction. C'est comme si on frotte nos deux mains, ça chauffe. La bille, elle permet d'éliminer la chaleur.
Il y a quelque chose qui est marquant, c'est la recherche de qualité, parce que tout est contrôlé. Il y a même des outils de contrôle pour contrôler les outils de contrôle. Des contrôles qui, forcément, ont un coût qu'on imagine assez lourd. Pourquoi c'est aussi critique?
Ce qu'on va produire va servir à produire le temps ou produire peut-être une opération de dosage de médicaments. Si ce n'est pas précis, c'est tout le système qui ne sera pas précis. Le roulement à billes, c'est la base de tout un système qui va être peut-être un faisceau laser. Donc, on s'imagine si on a un faisceau laser qui est positionné par un roulement à billes. Si le roulement à billes est incertain, c'est tout le système. Le reste pourrait avoir la précision qu'on veut. Si la partie où on a le logement du roulement à billes, où on a le roulement à billes, ça peut introduire des incertitudes qui peuvent détruire une précision.
Vous parliez du médical, c'est vrai que vous produisez notamment une pompe péristaltique, en gros un dispositif qu'on greffe dans le corps, qui distribue des antidouleurs en continu. Il y a 200 000 personnes dans le monde qui en ont un. Quand on produit un dispositif pareil, alors la qualité, on en a parlé, elle doit être là, ça doit durer 7 ans dans un corps humain. Il y a aussi tout un processus de certification, des contrôles, ça implique quoi de produire ce genre d'appareil?
Ah, vous n'avez pas idée, hein? C'est vraiment... C'est du lourd, comme on dit. Il y a tout... Chaque processus a un coût qui a été défini, qui a été figé. On ne peut plus le bouger. Et la difficulté, c'est qu'avec le temps, il y a des choses qui... On n'a pas le choix, changent, parce qu'il y a des matières qui ne sont plus disponibles. On veut aussi innover en apportant des améliorations. Alors, il faut avoir l'habilité à voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il faut être certifié, validé, comment on valide, puis revenir tout en arrière, pourquoi on a choisi ces paramètres, pourquoi toujours regarder, pas que la fonction, mais aussi pour chacune des décisions, pourquoi on les a prises, puis il faut vraiment tout documenter.
Ça veut dire qu'une certification, c'est une garantie, mais ça peut aussi être un peu un frein, quelque part?
Ça, c'est certain que plus que les affaires réglementaires sont lourdes, plus que c'est un frein à l'innovation.
L'innovation, parlons-en, c'est une des valeurs de l'entreprise. Vous visez un brevet par année, vous tenez l'objectif?
Un brevet ou une nouveauté, disons. Oui, on tient l'objectif depuis une dizaine d'années. Ça a été notre impulsion de départ. Et puis maintenant, dans l'expo principale où on va exposer... Les gens nous demandent qu'est-ce que vous allez annoncer cette année. Et puis, je vous dis déjà un scoop, les deux prochaines années, ça va être vraiment quelque chose.
Ah bah vous devez en dire plus, du coup. Ça va être quoi?
Ah non, non.
J'essaie, hein. Mais dans quel secteur l'innovation se fait maintenant chez vous? Dans le médical, dans l'horlogerie, dans les processus?
Beaucoup dans l'horlogerie, dans le médical aussi, mais c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'au niveau validation, je change, je ne fais que déplacer une machine. Je dois valider le déplacement d'une machine. Fait qu'on s'imagine changer un concept. Mais on arrive quand même à innover en étant tout en avance dans les développements de projets au niveau médical. Dans l'horlogerie, chaque année, on a des idées qu'on met en place et qui sont vraiment... Ça déborde d'idées.
L'horlogerie, c'est un secteur qui est en crise actuellement, en crise économique. Est-ce que vous êtes touché par cette crise?
Ouais, on est touché. On sent un ralentissement. Mais nous, on est moins touché que d'autres parce qu'on a pris nos devants déjà il y a 2-3 ans en développant des nouveaux produits. Donc avant, on n'était que dans le roulement à billes. Maintenant, on s'est vraiment développé dans des mobiles, dans d'autres organes de transmission de la montre et dans des spécialités qui sont uniques chez nous. On a un brevet, donc on doit venir chez nous. S'il y a moins de volume, on peut compenser par une prestation un peu plus grande au niveau du roulement.
Et le fait d'être diversifié, bon, le médical, les hautes technologies, ça vous permet aussi d'un peu mieux encaisser les changements dans l'horlogerie, les hauts et les bas?
Je pense définitivement d'avoir plusieurs pattes sur lesquelles on peut travailler. Déjà, c'est plus le fun. Hein? Et puis, en même temps, on a de la fertilisation croisée dans le sens que quelque chose qu'on a développé, par exemple, un DLC ou une couche qu'on va développer dans un domaine, on va l'utiliser dans un autre domaine, ce qui ne serait pas nécessairement arrivé. Donc, il y a beaucoup d'apports de part et d'autre.
Je n'arrive pas à voir. Vous avez une montre en ce moment? Vous portez une montre?
Oui.
Il y a des pièces de MPS
ouais, bien derrière, sûr.
Évidemment,
ouais.
Débit.
Ouais. Des billes, un roulement à billes. Pas que la bille, mais il y a tout le mécanisme qui est autour.
Elle est personnalisée, en quelque sorte. Ce n'est pas la seule. Des marques s'y mettent de plus en plus à la personnalisation. Un exemple dans la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard de cette semaine.
Pile à l'heure.
La journée internationale du marketing horloger a eu lieu la semaine dernière à La Chaux-de-Fonds. Parmi les intervenants, le franc montagnard Jean-Jacques Merlet, patron de Norcom Productions SA à Montfaucon. L'entreprise a trois types d'activités. C'est un centre de formation pour adultes, c'est un sous-traitant horloger et enfin, elle a sa propre marque UCS. UCS ?
Urban Color Style.
Jean-Jacques Merlet, merci pour cette réponse en musique. Alors le concept du CS, c'est le côté personnalisable de la montre. On retrouve le boss et son orchestre.
Ça se personnalise sur notre site internet, ucsshop.com, où vous pouvez mettre un prénom, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez faire graver le fond, et tout ceci pour un prix tout à fait raisonnable.
Montre personnalisable à partir de 178 francs, mais alors à quoi peut-elle ressembler et comment est-elle faite?
Nos critères, pas de plastique, de la couleur, et c'est une montre à 96% suisse, elle est en aluminium. Nous avons 280 modèles différents, donc vous avez le choix, du rouge, du bleu, du noir. Vous pouvez choisir le cadran que vous voulez, des formes rondes, rectangulaires ou barrettes.
Ok, et quelle est la philosophie de la marque UCS?
Quand on n'a pas forcément les moyens des marques, on est bien obligé d'avoir des idées différentes. C'est déjà d'être proche du public. La visite vers nos 700 000 personnes en faisant les salons, la foire de Martigny, la foire de Léman, entre autres, les Autonales à Genève, la BA à Berne, etc. Donc, dans le fond, c'est les clients qui modifient la montre et qui la font évoluer.
On quitte les musiciens pour demander, dans un endroit plus calme, à Jean-Jacques Merlet si le succès est au rendez-vous et ce qui se profile.
Ce concept-là, nous avons réfléchi en 2010 pour le lancer en 2011. Et il se porte très bien. On a énormément de succès avec cette marque. Alors, on ne peut pas se comparer aux grandes marques horlogères suisses, mais on voit quand même qu'il y a un créneau extrêmement intéressant que les gens achètent. Cette année, on aura vendu à peu près 3000 pièces. Il faut encore attendre la fin des ventes, les ventes de fin d'année. Mais pour l'année prochaine, on va passer un budget naturellement plus haut. 2018, l'exportation, on va sortir des frontières. Et grande nouveauté, au mois d'avril de l'année prochaine, on sort la montre pour enfants.
Le patron des montres UCS est fier de son produit. Du coup, il en possède plusieurs modèles.
Alors moi, le matin, en fonction de la chemise que j'ai mise, je vais choisir la couleur. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai du rouge. C'est pas que je vois rouge, mais j'ai effectivement toutes les couleurs. Mais de temps en temps, ma femme me dit « Est-ce que c'est toi qui as pris la bleue ?»
Pile à l'heure.
Sortie de boîte avec Nicolas Thibaudeau ce soir, directrice de Micro Précision Systèmes. Sabienne, vous étiez notre invitée. Une dernière question avant de se quitter. On vient de parler de montres personnalisables. Le personnalisable, ou plutôt disons le modulaire, l'intelligent, même si vous ne vous adressez pas directement à des consommateurs, ce sont aussi des pistes que vous explorez chez MPS?
Définitivement, parce que maintenant, on se rend compte qu'on doit aller au-devant de nos clients, du marché, pour arriver avec des solutions qui sont plus performantes. Il y a une telle pression sur la rentabilité qu'il faut qu'on arrive avec des solutions qui sont pour le client finalement moins chères. Puis pour ça, c'est pas en grattant, ça sert à rien. C'est vraiment en trouvant d'autres solutions. Une piste, c'est de développer une certaine modularité. Ça veut dire un système où j'ai des pièces qui sont déjà les mêmes pour tout le monde, mais personnalisées pour d'autres. Ou par exemple avec des calculations qui sont standardisées, un développement va prendre moins de temps.
Et après, c'est l'assemblage qui change comme les Lego.
À peu près comme un Lego.
Oui, c'est un peu plus compliqué, on imagine.
Ouais,
en tout cas, merci d'être passé dans Sortie de boîte ce soir. Très bonne soirée à vous.
Merci.
Un entretien que vous retrouvez en intégralité sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte revient. C'est Gabriel Devecq qui vous donnera chaud avec un invité spécialisé dans l'énergie et le chauffage. Sébastien Fèvre, directeur de Fèvre Énergie à Delémont, qui a dernièrement fait breveter un dispositif permettant d'optimiser sa consommation d'électricité et de chauffage. C'est donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très bonne soirée à tous.
Sortie de boîte.